À vous, les Burgiens. Votre magazine d'infos 100% local. Interview, reportage, suivez-nous, on est les seuls à vous y emmener. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça se passe à la caserne des pompiers de Bourg entre les interventions? J'étais sur place quelques heures. Un reportage long format pour casser des idées reçues. À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM. Avant de prendre la direction de la caserne, on s'arrête un instant pour parler d'une course un peu spéciale. Le principe, en moins de 3 heures, vous devez faire 40 km en périphérie de Bourg par équipe de 2, mais c'est là le défi sans votre propre voiture. L'expérience est à tenter pendant la Fête des Possibles. En quelques mots, la Fête des Possibles, ex-journée pour la transition citoyenne, est un événement national. Dans l'Ain, ce rendez-vous rassemble une vingtaine d'associations mobilisées concrètement pour vivre, produire, consommer autrement. Le collectif Autobus, auto avec un S, explore lui les alternatives à la voiture solo pour les déplacements ville-campagne. Le samedi 22 septembre, il organise la première course écomobile de Bourg-en-Bresse. Jacques Toutmonde du collectif est dans nos studios pour en parler. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Jacques Toutmonde, on ne peut pas prendre sa voiture, mais comment on va faire?
On va principalement tâcher de partager la voiture des autres. Quand on sort de Bourg, on voit défiler les voitures toutes les 10 secondes avec des places vides. Il y aura des emplacements où on pourra faire de l'autostop. Et nous pensons qu'on peut se faire embarquer en 5 minutes au pire. Bien sûr, il faut pouvoir sortir de la ville et ça, c'est une autre paire de manches. Mais on peut le faire en transport en commun, on peut le faire à pied, on peut le faire à vélo. Il y aura des vélos gratuits proposés par la station.
En vélo, si on peut penser à la trottinette, par exemple, en roller.
Tout à fait.
Il y a donc 4 parcours au choix qui partent et arrivent tous à l'esplanade de la Comédie à Bourg. Direction Montrevel, Tréfort, Neuville-les-Dames et Vona. Pourquoi ces choix?
Nous avons cherché à ce qu'au bout des parcours, il y ait des étapes. Et les équipes font tamponner leurs feuilles de route aux étapes et on a cherché des partenaires, des commerçants, des lieux de loisirs. Voilà, les étapes dépendaient un peu des partenaires qu'on a trouvés d'une part et aussi de ce que les parcours fassent à peu près tous 20 km, donc deux fois 20 km, l'aller-retour, c'est-à-dire 40 km en tout.
Alors si vous avez choisi l'aller-retour qui fait 40 km, c'est qu'il y a aussi une raison.
Et bien sûr, deux fois 20 km, c'est ce que fait typiquement un habitant de la périphérie de Bourg, matin et soir, tout seul dans sa voiture. Et donc, il s'agit de montrer que on peut les faire, ces deux fois 20 km quotidiens, en partageant les voitures. Alors aujourd'hui, c'est pas facile, mais on cherche à montrer que c'est possible.
Il y a aussi 4 prix à l'arrivée, rapidité, CO2 économisé, sportivité, inventivité. Donc là, vous allez juger. Comment vous allez faire là justement pour savoir pour la rapidité ou même la sportivité? Ça dépend des moyens, c'est avec les différentes étapes où ils doivent aller?
Alors, chaque équipe sur son parcours doit faire les 2 étapes prévues et revenir au bercail. Ce qui va faire l'originalité ou la performance des équipes, c'est le choix des différents moyens de transport qu'elle va faire, à quelle partie en vélo, à quel moment elle fait du stop, est-ce qu'elle choisit de prendre le bus quand il y a un bus, etc. etc. Donc l'inventivité, en parlant de ce prix de l'inventivité, c'est la combinaison de moyens de transport qui va permettre de faire le mieux possible ce trajet dans la perspective de le faire à l'avenir tous les jours.
Oui, parce que combiner plusieurs modes de transport, c'est ce qu'on appelle la multimodalité. Et ça tombe bien, puisque cette multimodalité est à l'honneur de la Semaine européenne de la mobilité. C'est en ce moment jusqu'au 22 septembre. Donc vous, Jacques Toutmonde, avec le collectif Autobus, vous le dites, il y a trop de voitures vides.
Quand on se poste aux entrées de Bourg le matin ou le soir, on voit des embouteillages qui ne sont pas dignes des embouteillages parisiens, mais ça commence à devenir pas mal, ils empirent d'année en année. Et observez, vous l'avez fait de toute façon. Dans chaque voiture, il y a une seule personne. Et cette personne prend de la place, prend des places de stationnement, déménage une tonne de ferraille matin et soir. Ça coûte un prix abominable. Mais on n'a pas d'autre solution. Et donc on les cherche, les nouvelles solutions.
Est-ce qu'on sait que s'il y avait plus de personnes par voiture, ça permettrait de résoudre par exemple ce problème de, des embouteillages ou justement de, d'éviter de moins polluer?
Alors beaucoup de gens disent la solution pour les problèmes de la voiture du quotidien, c'est la voiture électrique. Pourquoi pas, mais ça ne résout qu'une petite partie des problèmes. La seule méthode qui résolve tous les problèmes à la fois, c'est la voiture partagée. Ouais, avec la voiture partagée, si elle est réellement partagée à grande échelle, bien sûr. Plus d'embouteillage, plus de problèmes de stationnement en ville, des coûts pour les habitants de la périphérie diminués de plusieurs milliers d'euros par an, la possibilité dans les places vides d'emmener les vieilles personnes ou les jeunes en apprentissage qui n'ont pas de moyens de locomotion, ne parlons pas de la pollution évidemment, ça va de soi.
Et si on n'a pas le choix de prendre sa voiture, comment on fait, Jacques Tout-le-Monde ?
Au jour d'aujourd'hui, il faut être un petit peu aventurier ou aventureux. C'est souvent mon cas, malheureusement pas aujourd'hui, mais c'est souvent mon cas. Je pratique l'autostop, des petits systèmes de covoiturage qu'on peut inventer avec les amis ou avec les collègues de travail. Le vélo, si on est sportif, voilà. Mais tout ça, ce sont des solutions bricolées d'aujourd'hui. Nous, nous aspirons à ce qu'il y ait des solutions d'avenir beaucoup plus structurées. Bien sûr, on doit compter sur les transports collectifs, mais ça devient vite très cher s'il faut desservir très bien toute la campagne. Et donc, des formules de covoiturage nouvelles permettront d'être aussi efficace ou même bien plus efficace que la course écomobile, tout en remplaçant l'autostop d'aujourd'hui par des nouvelles formules de covoiturage de demain.
Mais si on est une famille, ce que vous dites, c'est qu'on aura quand même toujours besoin de voitures. Donc c'est ces personnes-là, par exemple, des familles qui ont besoin de leur voiture, qui peuvent servir à d'autres personnes.
Alors, dans une famille habitant à la campagne, il est vraisemblable qu'il y aura toujours besoin d'une voiture. Pas nécessairement de deux. Il peut y avoir, selon les jours, tel trajet requiert la voiture familiale, tel autre trajet peut s'accommoder d'une voiture partagée avec d'autres. On a là la perspective d'économiser pour une famille qui aurait, par exemple, une voiture au lieu de deux, selon les familles, de 3 à 4 ou 5 000 euros par an. Ne parlons pas de cette famille que j'ai rencontrée récemment dans la périphérie de Bourg et qui m'a dit avoir 6 voitures et qui ne pouvait pas faire autrement.
Jacques Tout-le-Monde, en quoi le covoiturage défendu par le collectif Autobus est différent du covoiturage d'un certain site internet ?
Ce certain site internet ou application de téléphone de smartphone offre un excellent service que je pratique d'ailleurs pour des longs trajets. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si je suis passager, je cherche le conducteur qui va pouvoir me prendre sur ce trajet. Il y en a souvent plusieurs. Je fais mon choix, je prends rendez-vous, on discute un peu du rendez-vous. Si jamais il y a un problème, on se retéléphone. Tout ça, c'est une petite charge. Petite charge que je fais très volontiers pour faire 300 km à quart de prix.
Vous, l'idée, c'est que ce soit pour le quotidien.
Mais pour le quotidien, je ne peux pas faire ça le matin, le soir. Je ne peux pas le faire pour choisir un conducteur le soir et si ma réunion se prolonge pour en choisir un autre. Beaucoup trop compliqué, on a besoin de quelque chose de beaucoup plus souple. Le site internet dont vous parliez tout à l'heure expérimente des systèmes plus souples dans la périphérie de Toulouse, de Reims, de Paris. Une vingtaine d'autres start-up, une dizaine d'autres start-up expérimentent dans plein de villes en France. On est en quelque sorte dans une nouvelle mobilité du futur, mais d'un futur assez proche. On n'est pas dans un rêve pour dans 20 ans.
Mais cette nouvelle mobilité, elle ne sera pas possible sans la partie des institutions. Les logos donc, du département, de l'agglo, de la ville sont sur l'affiche de la course écomobile. Concrètement, ils en pensent quoi de ce que vous proposez? En quelques mots, Jacques Tout-le-Monde.
D'abord, merci, parce qu'ils ont aidé à la mise en place de la course. Les idées que nous défendons et que je viens d'exprimer, nous les défendons depuis quelques années, mais elles sont devenues à la mode. Et donc, maintenant, il n'y a pratiquement plus de collectivités qui ne soient pas intéressées par ce sujet-là. Et les collectivités de Bourg et du département de l'Ain le sont, évidemment.
Donc, ils sont prêts à mettre en place ce qu'il faut pour soutenir vos idées.
Ah, c'est ce que nous espérons. En tout cas, créer une expérimentation de lignes de covoiturage, nouvelle formule sur une route autour de Bourg, c'est pas une petite association qui peut le faire. Ce ne sont que les collectivités.
La course écomobile, c'est ce samedi 22 septembre, départ à 14h de l'esplanade de la Comédie. On peut même s'inscrire le jour même s'il reste des places. Sinon, vous pouvez le faire dès maintenant sur autobus.org. Attention, auto avec un S. Et je le précise, c'est gratuit. Jacques Tout-le-Monde, merci.
Merci.
À noter, pour prendre des forces avant la course, toujours le 22 septembre, toujours dans le cadre de la fête des possibles, la grande tablée, un repas partagé, c'est à partir de 11h.
Nous sommes au foyer et vous avez entendu qu'il y a des bips ont sonné, donc ça veut dire qu'il y a une intervention. Une fois qu'il a bipé, on peut lire la mission, l'engin et la raison du départ. Donc chacun se dirige, alors le conducteur à l'engin directement pour démarrer l'engin et le chef de l'engin, il se rend donc au standard pour récupérer la feuille de mission et préparer l'itinéraire et se rendre sur les lieux d'intervention pour intervenir.
Restez à l'écoute de Radio B, on part à la caserne des pompiers de Bourg dans quelques minutes. Anne Calvi sur Radio B avec Hunter. À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM. Le congrès national 2018 des sapeurs-pompiers, c'est à Bourg-en-Bresse du 26 au 29 septembre. 50 000 visiteurs sont attendus. Pour les pompiers, c'est un rendez-vous majeur et pour vous, l'occasion d'en savoir plus sur leur métier, leur mission ou même de devenir volontaire. Comment imaginez-vous la vie de la caserne de Bourg? Ça court dans tous les sens, c'est bruyant. Les pompiers enchaînent les interventions. Pour le vérifier, le mieux, c'est d'y aller. Il est presque 7 heures, on est à 2-3 minutes du rassemblement du matin. 16 sapeurs-pompiers sont de garde à la journée à la caserne. Ils sont rassemblés en ligne face à l'officier de garde, le responsable de cette dernière. Il répartit les missions de chacun et vérifie l'effectif.
Allez, la garde pour ce vendredi 7. Alors, en consigne, donc on a le groupe ventilo-thermique du fourgon, le déport d'échappement qui n'y est plus, puisqu'il est cassé. Sinon, pour la manœuvre, c'est top SR, démo 4 jars. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Il y a des questions? Non? Bon, allez, c'est parti.
Pour le rassemblement, les missions de chacun ont été réparties. Je m'appelle Jérôme Berger, je suis sapeur-pompier à la caserne de Bourg depuis 2002. Plus généralement, je suis pompier professionnel depuis presque 22 ans. Alors, je suis adjudant-chef, c'est-à-dire je peux prendre le chef d'équipe sur tous les engins de la caserne de Bourg. J'ai également une spécialité qui est le sauvetage des blaibans. Chacun va procéder à la vérification de l'engin pour lequel il a été missionné. Et voilà.
Donc là, pour commencer, vous allez partir sur quoi ?
Alors moi, j'ai pour mission d'aller vérifier ce qu'on appelle la VSAV 1, donc la première ambulance, véhicule de secours aux victimes, d'aller vérifier tout le matériel de l'engin, de voir si tout fonctionne, les gyrophares, ce qu'on appelle le deux-ton, donc le pimpon, et tout le matériel à l'intérieur, qui doit se trouver à l'intérieur du véhicule. Comme on peut peut-être l'entendre derrière moi, il y a de la discussion, il y a de la convivialité. Donc voilà, c'est un petit peu la particularité de notre vie de sapeur-pompier. Les relations sont un petit peu exacerbées. On peut vivre jusqu'à 24 heures ensemble. On n'est pas militaire, mais il y a une vie de caserne. Là, c'est le début des vérifications d'engins. Donc voilà, les gens vont dans les engins, les démarrent. On a besoin de sortir les engins pour la plupart, puisque comme la grande échelle par exemple, il faut la déployer forcément pour la vérification. Donc voilà, le fourgon pour le feu, il faut essayer la lance incendie. Voilà, c'est quelques exemples pour lesquels il faut sortir les engins, les faire fonctionner. Se diriger vers les ambulances. Nous sommes dans la remise des ambulances, donc qui est une remise à part puisque c'est du sanitaire, donc ça doit pas, les ambulances ne doivent pas être dans la même remise que les autres engins. Trois ambulances dans cet espace-là. Donc là, je vais procéder à la vérification de la première ambulance qui est susceptible de partir en intervention. Donc là, pour cette mission, je suis aidé de mon collègue Benjamin. En général, on est deux par véhicule pour la vérification du matin. Un contrôle croisé, on peut dire. Nous, on aime bien chez les pompiers travailler en équipe. C'est la particularité de notre métier et c'est ce qui fait que c'est ce que peuvent rechercher certains dans ce métier de sapeur-pompier. La solitude dans une intervention, c'est quelque chose qu'on ne vit pas. Alors parfois, on est seul face à une décision, mais malgré tout, on a toujours l'appui de quelqu'un et le regard de quelqu'un. Moi, ça ne me dérange pas, même si j'ai la responsabilité d'une intervention, de demander un conseil à un autre sapeur-pompier ou son avis, ou au contraire, je pense que si... Le doute n'est pas permis, donc il faut vraiment faire appel à ce travail d'équipe et c'est ça qui est important.
Qu'est-ce qu'il reste à faire, Ben ?
Avec mon collègue Benjamin, nous vérifions ce qu'on appelle les sacs premier secours. Donc on a deux sacs avec lesquels on intervient. Donc un sac purement premier secours où il y a de quoi soigner une hémorragie, une brûlure, toutes sortes de premiers soins pour les victimes. Et moi je m'apprête à vérifier le sac oxygénothérapie. Donc pour administrer de l'oxygène sur une personne qui serait par exemple en détresse ventilatoire, respiratoire, voilà.
Quel type d'intervention vous pouvez avoir ?
Contrairement à notre deuxième nom qui est les soldats du feu, 80% de nos interventions sont des interventions de secours à personne. Donc que ça soit des malaises, des blessés, voilà, toutes sortes d'interventions, blessés au sport, malaises à domicile, malaises sur un lieu public. Le feu ne représente que 5 à 7% de nos interventions. Et quelques interventions donc, de spécialité, puisqu'on a la spécificité à la caserne de Bourg d'avoir des plongeurs, des spécialistes de risque chimique, des spécialistes en sauvetage d'éblaiement. On a même quelqu'un qui fait partie de l'équipe cynotechnique avec un chien de recherche. On a aussi un sapeur-pompier qui peut intervenir en milieu périlleux, donc c'est-à-dire la montagne ou toute intervention en hauteur, et qui fait que notre champ d'action peut être départemental, voire extra-départemental. Donc là, on se dirige vers un point un peu névralgique de la caserne, qui est ce qu'on appelle le foyer, où on se réunit pour boire un café, pour discuter, pour échanger d'une manière un peu plus conviviale. Donc voilà, c'est un endroit qui est assez fréquenté durant la journée et à des moments de pause plus particulièrement. Salut Fab. Ça va ?
Ouais. Est-ce que quand vous êtes au foyer, vous arrivez à couper du travail ?
Bizarrement, on arrive quand même à faire une coupure. Même sur des interventions un peu plus difficiles, on arrive à échanger dès le retour d'intervention. Et justement, ce foyer, le fait de se retrouver permet de faire cette coupure. Ça peut choquer ce que je dis là, mais on arrive à vivre des moments de convivialité et de passer à autre chose. Alors c'est Radio B. Nous sommes au foyer, comme je vous l'indiquais. Et vous avez entendu qu'il y a des bips ont sonné, donc ça veut dire qu'il y a une intervention. Une fois qu'il a bipé, on peut lire la mission, l'engin et la raison du départ. Donc chacun se dirige, alors le conducteur à l'engin directement pour démarrer l'engin et le chef de l'engin, il se rend donc au standard pour récupérer la feuille de mission et préparer l'itinéraire se rendre sur les lieux d'intervention pour intervenir.
Et vous avez combien de temps pour quitter la caserne ?
L'engin doit partir dans les 5 minutes. Le champ d'action, il peut être... on a une défense de territoire qui rayonne sur Bourg et ses alentours. Donc on a certaines communes qui sont un peu plus éloignées. On peut être grand maximum dans les 20-25 minutes sur les lieux d'intervention suivant où l'intervention se situe. Donc là, c'est la pièce qu'on appelle le standard, où on vient, quand le bip sonne, le chef d'agrès, donc c'est le chef de l'engin, vient chercher son ordre de mission qui sort par une imprimante. Il y a deux engins qui viennent de partir. Donc là, sur la feuille de départ, on peut voir ce qu'on appelle le sinistre, donc la mission, pas de réponse à l'appel. Quelques observations où les gens du centre de traitement des alertes ont pu rédiger quelques précisions sur la personne, s'il y a des animaux par exemple sur ce genre de mission, ça peut être important de le savoir, s'il y a des chiens dans la maison, voilà, si la personne est connue comme dangereuse ou pas. Enfin, donc ils peuvent rédiger un certain nombre d'observations. On a bien sûr un pavé qui est la localisation du sinistre. En l'occurrence, ici, c'est Perona. Après, on a le pavé qui est propre à l'engin avec les effectifs et leur mission.
Ouais. Un groupe qui va être la Kadja, la Zoé, et l'autre au canage fourreau,
okay.
Tout dans l'armée.
Okay. Donc là, c'est le moment de la manœuvre de la garde. Alors aujourd'hui, le thème principal, c'est la désincarcération. Un deuxième groupe va intervenir sur le poids lourd. Comment on cale bien un poids lourd.
Donc en fait, la manœuvre, c'est le moment où vous revoyez des techniques.
La manœuvre, c'est le moment de révision. Ça peut être un apport de connaissances, s'il y a du nouveau matériel qui est arrivé, s'il y a des nouvelles techniques à enseigner. Alors ça peut être théorique, ça peut être pratique. On a tellement un champ d'intervention élargi qu'il faut essayer de balayer tous ces domaines à l'aide de cette manœuvre quotidienne. Alors, on va se diriger sur un groupe qui présente un véhicule qui a été fait avec les élèves du lycée Pardet et du lycée Caria, à savoir un véhicule qui est ajouré, comme si on mettait des vitres à la place de la carrosserie, pour nous aider dans nos techniques de découpe du véhicule et visualiser vraiment où se situent tous les renforts du véhicule.
Après, à l'arrière du véhicule, pareil, on a la traverse arrière.
Sauf que là, c'est dessous. Toi, c'est apparent.
Donc, le même système que la traverse avant avec l'absorbeur de choc en accordéon. Choc.
Donc là, sur le véhicule de démonstration, mon collègue, à l'aide d'une tablette, a simulé un accident en choc frontal. Il peut mettre l'accent sur les parties déformées qui sont vers le moteur, donc en choc frontal. Et sur le déclenchement, il va jusqu'au déclenchement au ralenti des organes de sécurité, comme les airbags, pour vraiment qu'on visualise ce qui se passe lors d'un accident. Pendant la manœuvre, on a entendu qu'il y a des bips qui ont sonné. Je ne sais pas si on a bien entendu, mais bon, il y a une intervention qui est tombée là. Donc les gens quittent la manœuvre et c'est l'activité opérationnelle qui prime. Donc, et cela à tout moment de la journée, que ce soit à n'importe quel moment, n'importe quelle activité qu'on est en train d'effectuer, on quitte tout pour l'intervention.
Là, il gonfle de nouveau les airbags et juste derrière, on voit l'ambulance qui est partie.
Pour nous, c'est du quotidien et vous voyez que ça entache en rien la session de formation qu'on est en train de suivre. Pour nous, c'est la vie ne s'arrête pas, en fait.
La manœuvre, c'est donc tous les jours et ça dure combien de temps ?
La manœuvre, dans le meilleur des cas, parce que j'entends que ça repart encore en intervention, mais dans le meilleur des cas, elle dure une heure et demie, de 8h30 à 10h. Et après, on enchaîne sur une séance de sport qui est prévue dans notre emploi du temps. Là, la manœuvre va être un petit peu entachée, puisque on a plusieurs équipes qui sont... Alors, certains sont déjà en intervention et on entend que ça... D'autres partent en intervention. Si on reste assez nombreux, on peut quand même essayer de voir le matériel. Sinon, eh ben, on range le matériel et puis on se met à disposition de l'activité opérationnelle si ça le nécessite. Pour cette manœuvre, nous ne sommes donc plus que quatre. Tout le reste de l'effectif est en intervention. La suite, ça va être la séance de sport jusqu'à 11h30. Ensuite, à 11h30, c'est midi moins le quart, c'est l'heure du repas. Alors vous allez me dire, c'est un repas qui a lieu de bonne heure, mais en principe, vers midi, l'activité opérationnelle, elle augmente. Donc on est susceptible de partir en intervention à midi. Donc voilà pourquoi on mange un petit peu plus tôt que la moyenne de tout le monde. Voilà pour ce qui est de la matinée. Ensuite, on se rassemble à 13h30 pour l'après-midi. Et on a chacun ce qu'on appelle les travaux dans les services. On est chacun affecté à un service. Donc moi, je suis en charge du service formation. Mais il faut savoir qu'il y a le service habillement, le service casernement, le service des plannings. Voilà, différents services donc pour lesquels on travaille les après-midi.
Trois ambulances sont sorties, il n'est même pas 10 heures et c'est déjà la cinquième intervention depuis ce matin. À la caserne de Bourg, il y a en moyenne une vingtaine d'interventions par 24 heures.
Bien, allez, on va attaquer. Donc, comme d'habitude, vendredi, on va attaquer la remise sur les véhicules, on contrôle bien les pleins. Et puis voilà, quoi.
13h30, nouveau rassemblement des pompiers de garde. Je retrouve l'adjudant-chef Berger.
On en est à 11 interventions, essentiellement des ambulances, secours à personne, mais aussi un sauvetage d'animal, donc un gros oiseau, on ne sait pas encore ce que c'est, qui était coincé quelque part. Donc voilà.
Et vous êtes vous-même intervenu ?
On est parti pour une intervention de secours à personne. Juste au moment du repas. Donc voilà, j'ai mangé un petit peu plus tard, mais c'est pas grave. On a fait ce qu'on avait à faire et voilà.
Petit retour sur l'intervention. Donc c'était.
Quelqu'un qui a fait un petit malaise en état de légère dépression suite à un problème conjugal. Rien de bien particulier pour nous. On l'a juste accompagné, discuté avec un médecin au centre psychothérapique de l'Ain. Et voilà, pour nous, c'est une intervention somme toute assez courante.
Je les laisse ici. Comme tous les vendredis après-midi, ils vident la caserne de tous les engins pour nettoyer les sols. Vers 17h, chacun sera libre de faire d'autres choses tout en restant à la caserne. Pour beaucoup, ça sera sport. Et ceci jusqu'à 19h pour le prochain rassemblement où les collègues de la garde de nuit arriveront. En quelques chiffres, la caserne de Bourg, c'est 45 pompiers professionnels et environ 70 pompiers volontaires.
Radio B.
Radio B.
Quelques infos avant de refermer cette page dédiée aux pompiers. Quand on part en opération, on décale. Les pompiers enlevaient les cales d'une pompe à bras, un ancien engin tracté par des chevaux pour éteindre les incendies. L'expression est restée. Cet engin est visible dans le hall de la caserne de Bourg. Dans ce hall sont aussi accrochées plein de photos des différentes générations de pompiers de Bourg. Il y a celles de 1932, 1945 ou encore 1976. Une photo particulière pour l'adjudant-chef Berger, le pompier que j'ai suivi dans le reportage. Sur cette photo, il y a son père, un de ses oncles et son grand-père. C'est donc tout naturellement qu'il est devenu lui aussi sapeur-pompier. Le congrès national 2018 des sapeurs-pompiers, c'est à Bourg-en-Bresse du 26 au 29 septembre. Un village prévention sera installé sur l'esplanade de la Comédie. C'est de 9h à 19h, c'est gratuit et ouvert à tous. Une vingtaine d'animations sont prévues autour de quatre grands thèmes, les accidents domestiques, la sécurité routière ou encore les accidents de loisirs. Retrouvez toutes les infos sur congrès2018.pompiers.fr dans l'onglet Programme. A noter cette exposition photo, l'art du métier, jusqu'au 5 octobre à la gare de Bourg. L'accès est libre.
Radio B.
En bref, que pensez-vous du parc de Bouvant ? Si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. Bourg lance dès ce lundi et jusqu'au 31 octobre un questionnaire. La ville veut connaître vos habitudes, vos suggestions. Des changements sont prévus dans le futur. Pour vous exprimer, c'est sur bourg-en-bresse.fr ou via un papier à récupérer à la mairie ou à Bouvant. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à l'adjudant-chef Berger et aux pompiers de Bourg pour leur accueil. Et merci à vous pour votre écoute. Retrouvez À vous les Burgiens tous les lundis à 17h15, rediffusion mercredi à 13h, samedi et dimanche à 8h. Et à tout moment sur notre site radio-b.fr.